Bonjour tout le monde. Je ne fais pas ça souvent, mais je crois que ça va être essentiel de le faire aujourd'hui, étant donné le sujet de notre première entrevue. On y aborde des thématiques qui peuvent être difficiles pour plusieurs de nos éditeurs, auditeurs, auditrices ou auditorices. Alors, Canal M préfère vous avertir. Et si pendant ou après avoir écouté cette entrevue, vous sentez que vous avez besoin de soutien, vous composez le 988 partout au Canada. On parle des thérapies de conversion. En fait, je fais le même trauma-avertissement qu'on fait lorsqu'on commence à écouter cette série de balados. Ce n'est pas un concept ou l'apanage uniquement des États-Unis ultra-religieux, là, très profond, ni à un passé lointain. Les thérapies de conversion, ben, c'est bel et bien de la torture, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, et cette torture anti-queer existe encore au Québec et au Canada, même si c'est illégal. Justin Lebeau anime une série de balados « Fais un homme de toi » disponible gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada. Bienvenue à l'émission, Justin.
Merci de l'invitation.
Et puis, comme à chaque fois qu'on reçoit un nouvel invité, on lui demande quel accord et quel pronom on utilise avec
vous
toi.
Vous pouvez dire « il » et utiliser le masculin sans problème.
Alors, dans quelle mesure les thérapies de conversion, rentrons dans le sujet.
On y va.
C'est dommageable.
En fait, ça cause beaucoup de tort. Donc, ces tentatives de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un, vous l'avez dit, c'est considéré comme une torture. Et quand on a rencontré plusieurs intervenants pour la série, il y a Martin Blais qui dit qu'une thérapie de conversion, c'est une entreprise de destruction massive de l'identité, de l'estime de soi. Donc, ça crée une haine de soi si grande qui peut nous rester à l'intérieur pendant des années. Donc, au Canada, c'est prouvé, il y a eu des thérapies de conversion, il y en aurait même encore, même si c'est illégal depuis janvier 2000.
On peut toujours le faire sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sur Internet, dans le dark web, etc.
Exactement. Hein? Puis maintenant, même avec la pandémie, on a vu vraiment l'essor des vidéoconférences, donc c'est assez facile de se brancher avec des spécialistes un peu partout sur la planète. Donc, ces thérapies-là, elles causent effectivement des torts. Il faut savoir que la moitié d'entre elles sont faites chez des moins de 18 ans. Donc, à l'adolescence, à un moment où on est en train de se définir, de se construire soi-même. Donc, hausse de l'anxiété, hausse des problèmes sociaux. Ça peut être également un impact sur le parcours scolaire et ensuite sur le parcours socio-professionnel. Et on l'a remarqué, les études le démontrent, une hausse des tentatives de suicide, des idées suicidaires. Donc, il y a probablement des gens aujourd'hui qui ne sont malheureusement pas là pour raconter leur expérience de thérapie de conversion parce qu'elles se sont enlevé la vie.
Bien, comme j'ai dit, c'est une série de balados que j'ai trouvé confrontante, j'ai trouvé difficile à écouter. Non pas que c'était pas bien fait, mais ouf, j'ai pas fait une écoute, ce qu'on appelle le binge listening, là, mais pas du tout.
Oui, l'écouter en rafale, c'était plutôt difficile. Cela dit, je suis assez étonné parce que la série est sortie depuis 3 semaines maintenant et oui. Il m'arrive une affaire qui m'était jamais arrivée jusqu'à aujourd'hui. Pour tous les projets que j'ai faits, je reçois tellement de commentaires, tellement de témoignages de gens qui me racontent leurs histoires.
Tout à fait.
Et ça me touche énormément. Et il y a des gens, oui, qui l'ont écouté d'une traite, la série.
Oui.
Donc, on peut le faire, mais effectivement, quand on est directement touché par ces réalités-là, puis il faut dire que quand on parle de thérapie de conversion, on parle de beaucoup de choses, hein, parce qu'on parle d'acceptation de soi, on parle de religion, de spiritualité, on parle du vivre ensemble, on parle de l'identité. Toutes ces questions-là, elles touchent tous les êtres humains qui sont à l'écoute.
Tout à fait. Alors, pourquoi j'ai fait un trauma-avertissement à tout le monde avant? Vous allez voir pourquoi. Ces thérapies ont eu plusieurs formes, ont encore plusieurs formes.
Oui.
Alors, assoyez-vous tout le monde. J'en cite des exercices. Oui. On en parle ouvertement dans ces balados.
Oui, on rencontre Gabriel qui en a eu 3 exorcismes, dont 2 de son propre choix.
C'est incroyable. On parle de lobotomie, de greffe de testicules d'hommes hétéros, de castration, d'électrochoc, de viol collectif, rien de moins. Jocelyn, comment t'as fait?
Honnêtement, ça a été difficile pour moi aussi de plonger dans ces sujets-là, mais je vais vous avouer que j'en sors énormément grandi. Vous dites que l'écoute a été quand même assez difficile ou confrontante.
Oui.
Je suis d'accord, ça peut l'être, mais il y a aussi beaucoup de lumière dans la série.
Tout à fait, c'est vrai.
Parce que ce sont des parcours d'acceptation de soi. Donc, d'entendre par quel chemin sont passés plusieurs personnes, ça permet de peut-être se reconnaître, mais aussi de faire un cheminement intérieur, je pense. Donc moi, ça m'a fait énormément réfléchir par rapport à ma propre histoire. Je tiens à le dire, j'ai pas suivi, moi, de thérapie de conversion, j'en ai pas subi, mais à l'adolescence, si on m'en avait proposé, j'aurais été un excellent candidat si j'avais peut-être baigné dans un groupe très religieux, par exemple, parce que je me sentais tellement mal d'être homosexuel à ce moment-là de ma vie. Et la principale raison, c'est qu'autour de moi, j'en connaissais aucun. Il n'y avait personne dans mon entourage, dans ma famille, dans mon école secondaire, même si j'allais dans une polyvalente de 2500 étudiants sur la rive sud de Montréal. Il n'y avait personne qui s'affichait publiquement. Il n'y avait aucun modèle de réussite ouvertement gay autour de moi. Donc, quand je commence à me sentir attiré par les autres gars autour de moi, je me dis, ben, qu'est-ce que ça va être ma vie?
Ouais.
Et par ailleurs, je suis vraiment pas le seul. Il y a tellement de gens qui m'ont raconté ces histoires-là, parce que je le dis dans la série, j'ai vécu un épisode principalement d'intimidation secondaire où je marche tout simplement pour aller au local du journal étudiant. Et pendant que je marche dans le corridor, il y a un groupe de gars plus âgés qui m'attrapent par en arrière. J'avais une salopette à l'époque et puis qui me tirent dans la salle de bain. Et puis qui me traitent de nom que j'ai pas envie de répéter ici aujourd'hui. Mais je savais que je voulais pas être ça parce que ça pouvait m'attirer des ennuis. Et à ce moment-là, on n'en parlait pas. Je remercie le ciel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles publics. On en parle ouvertement. Il y a des émissions de radio comme ici qui abordent ces questions-là. Et je pense que les choses sont en train de changer pour le mieux, mais il faut continuer la bataille.
En tout cas, s'il y avait eu une pilule, moi aussi, je l'aurais prise.
Oui, pour être hétérosexuel. Ouais, hein?
Tout à fait. Alors, comment ça se fait qu'on on parle de thérapie de conversion, mais on en sait si peu là-dessus?
C'est un sujet qui est très tabou. On rencontre Olivier Ferlatte au début du deuxième épisode, qui est un des chercheurs qui a participé à cette grande étude pancanadienne qu'il y a eu sur le sujet. Il disait, dans les communautés, c'est un sujet qui n'est pas abordé. On n'ose pas, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont honte même d'avoir subi ça, d'avoir vécu ça. Par contre, cette étude-là, savez-vous quoi? Elle a réussi à démontrer qu'il y avait près de 10 % des communautés LGBTQ+ au Canada. On parle de près de 100 000 personnes qui auraient vécu au cours de leur vie des pratiques de conversion. Et ça fait du monde à la messe, ça, là.
On entend beaucoup parler dans tout ça de la religion. Est-ce que, surtout par les personnes qui ont été interviewées, c'est quoi la place de la religion dans tout ça?
Ouais, ben les thérapies de conversion se sont passées vraiment dans deux domaines en particulier. Oui, il y a eu le domaine médical, parce que si on raconte l'histoire récente quand même des luttes LGBTQ+, c'était l'homosexualité une maladie mentale selon l'OMS jusqu'au 10 mai 1990. Donc, ça fait quand même 34 ans, là. Ça fait pas si longtemps que ça.
Ça fait juste 34 ans que je suis malade mentale.
Non, mais c'est terrible à dire. Puis pour les identités trans, c'est 2019, ça fait 5 ans. Alors, c'est sûr que dans le milieu de la santé, il y a eu des tentatives, je pense, bienveillantes de certains professionnels de tenter de guérir, je le mets vraiment en guillemets, l'homosexualité ou la transidentité de certaines personnes. Maintenant, on sait que ça fonctionne pas parce que ça a été tellement essayé que on sait que ça a plus de dommages que de bienfaits. Je reviens à votre question sur la religion. Ben, il y a plusieurs personnes qui perçoivent l'homosexualité comme un démon, par exemple, que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Si dans votre conception religieuse, quand vous avez ce démon-là à l'intérieur de vous, ça va vous mener à votre mort en enfer, brûlé pour l'éternité, et que c'est une conviction profonde que vous avez à l'intérieur de vous, je peux comprendre que vous avez envie de tenter de changer.
Oui.
Parce que c'est une pression si grande et une peur si immense que c'est sûr que ça peut amener ce genre de désir-là de changement. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous, vous n'êtes pas religieux, mais il y a beaucoup de gens à travers le pays, et ce n'est pas seulement la chrétienté, il y a beaucoup de religions qui ne voient pas l'homosexualité ou la transidentité de la même façon que nous, on peut la percevoir. Donc, ils peuvent tenter de proposer, encore aujourd'hui, cette thérapie, et je le mets vraiment en guillemets, de conversion, parce que même si ça s'appelle comme ça, il n'y a rien de thérapeutique là-dedans.
Alors, on vient de le dire, c'est démontré. Même le groupe de thérapie de conversion qui s'appelait Exodus, qui n'existe plus maintenant, on l'a admis, ça ne marche pas, les thérapies de conversion.
Et pire encore, en fait, les gars qui étaient à la tête de cette organisation-là, après avoir tenté de changer des dizaines de milliers d'hommes, ont assumé que ça ne fonctionnait pas et ont fait leur coming out. Ils sont sortis du placard, les gars qui étaient à la tête d'Exodus.
Alors, pourquoi donner une tribune à quelqu'un comme Georges Bruchemi, qui nie des faits avérés, notamment sur les dommages causés par les thérapies de conversion, et qui, même, moi, je vais très loin, ben, on est pas mal dans les réalités et les vérités alternatives. Alors, pourquoi lui donner un droit de parole à une tribune comme ça?
Il reconnaît lui-même que, des fois, certaines de ses positions sont proches du conspirationnisme. Je vais vous dire, avec Philippe Marois, le réalisateur de la série, Jean-Philippe Roux qui a fait la recherche, nous, notre idée, c'était vraiment de mettre de l'avant différentes facettes autour des thérapies de conversion. Donc, si on veut demander aux gens d'écouter nos réalités à nous qui avons vécu ces thérapies-là, je pense que c'était important comme travail de démarche de découvrir aussi ce que d'autres personnes peuvent penser et pourquoi elles pensent comme ça. Donc, Georges Buscemi a une perception qui est différente de la mienne autour du fait que, justement, c'est une croix à porter l'homosexualité et que si on la combat, cette croix-là, parce qu'on a tous des croix, ça peut être différentes sortes de croix, l'homosexualité en est une, eh bien, peut-être que quand on arrivera au jugement dernier, on pourra quand même aller au paradis. Donc, il a admis publiquement qu'il était pour les thérapies de conversion. Je vais vous avouer que moi, j'avais très peur de le rencontrer au départ parce que c'est confrontant de s'asseoir devant quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde que nous. Cela dit, je veux qu'on vive dans une société où on est capable d'échanger avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Et moi, j'ai grandi à travers cette entrevue-là. On s'est parlé comme deux adultes responsables et respectueux. On était capable d'échanger même si nos visions ne sont pas les mêmes. Et aussi, on a fait notre travail également. Certains des propos qui étaient avancés n'étaient pas exact selon les données scientifiques dont on dispose en ce moment. Donc, ça nous permettait aussi de rectifier les faits.
Vous avez replacé le contexte. Oui, et c'est là, je pense que c'est très radio-canadien, puis ça fait du bien d'entendre ça.
Et d'autant qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme M. Buscemi et qui peuvent aussi se reconnaître à l'écoute. Donc, ça permet justement d'engager le dialogue entre tout le monde.
J'aimerais parler d'un autre personnage, il s'appelle André, qui affirme désormais, c'est une personne homosexuelle, puis qui affirme présentement être capable de vivre sa vie hétéro grâce à Dieu et tout ça.
Oui.
Comment ça a été cette entrevue-là aussi?
Ça aussi, c'est une rencontre qui m'a quand même troublé. André, il dit qu'il y a deux loups en lui, le loup de la tête et le loup du cœur. Le loup de la tête, c'est celui de ses pulsions, de ses désirs homosexuels qui n'ont jamais été consommés dans la vie réelle. C'est resté vraiment à l'ordre des fantasmes et des idées. Et il y a sa pulsion du cœur et il a décidé, lui, de donner tout son cœur à Dieu. Donc aujourd'hui, il est père de deux enfants, il est marié et Dieu lui a dit « tu auras une femme ». Et je vais vous dire un truc, je m'attendais à rencontrer quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Il est très bien dans sa peau, honnêtement. Il parle avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et encore une fois, c'est une autre réalité par rapport à ça. Il n'a pas subi de thérapie de conversion. Non. Il se positionne contre les thérapies de conversion d'ailleurs. Mais lui, sa façon de vivre avec son homosexualité, ses désirs, c'est de choisir d'écouter Dieu.
De toute façon, il y a beaucoup de personnes bi-plus ou poly-plus qui sont capables de vivre une certaine fluidité sexuelle et romantique.
Tout à fait.
Il nous reste une petite minute, alors allons-y. On peut trouver la balado où, quand, comment?
Alors, fais un homme de toi.
Oui.
C'est sur les thérapies de conversion. C'est disponible gratuitement sur l'application Radio-Canada Audio. On parle de 7 épisodes. C'est près de 5 heures, en fait, où on rencontre une vingtaine de personnes qui nous racontent leur vécu d'un océan à l'autre du pays. Honnêtement, depuis que c'est sorti, je salue tout le monde qui nous écrivent et nous racontent leurs histoires. Je sens que ça fait écho chez plusieurs personnes. Alors, si jamais vous l'écoutez, ne vous gênez pas pour me faire part de vos commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Donc, c'est « Fais un homme de toi » sur Radio-Canada Audio.
De toute façon, Jocelyn Leboux, c'est vraiment une personne parlable. On vient de s'en rendre compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.